en compagnie de Jean-Pierre Le Breton, responsable scientifique à l'Agence spatiale européenne de la mission Cassini-Huygens. On est évidemment intéressé par l'avenir, Jean-Pierre, pour Titan, avec un goût de revenez-y. Je sais que vous vous réunissez régulièrement avec les Européens, les Américains pour préparer de futures missions. À quoi doit-on s'attendre ou peut-on s'attendre pour les décennies à venir, en sachant qu'entre le moment où on prépare une mission et le moment où elle arrive, il y a un certain temps, comme on dit.
25 ans.
25 ans, le quart de siècle, là, c'est. Oui. Mais qu'est-ce qui est rêvé aujourd'hui comme étant la suite de la mission sur Titan ?
Alors, en fait, il y a plusieurs lunes qui nous font rêver. C'est vrai que Titan nous fait beaucoup rêver. Il y a une lune de Jupiter, Europe. D'autres lunes de Jupiter, Ganymède, Callisto, qui nous font rêver. Io, l'autre lune de Jupiter, nous fait rêver, mais là, c'est pratiquement impossible d'y aller. Donc, il y a actuellement deux grandes missions qui sont étudiées en collaboration entre les Américains, les Européens et même les Japonais. Une mission qui irait de nouveau voir Europe, la lune de Jupiter, observer de nouveau Jupiter, l'ensemble de Jupiter, ce qu'on appelle le système de Jupiter, et d'autres, peut-être d'autres lunes comme Ganymède, Callisto. Alors ça, c'est une des missions. L'autre mission, c'est une mission qui envisage de retourner vers Titan, d'observer d'autres lunes de Saturne, Encelade en particulier, qui se révèle vraiment très intéressante, et puis Saturne dans son ensemble, donc le système de Saturne. Alors ce sont deux missions qui sont à l'étude actuellement entre les Européens, les Américains et les Japonais. Il faudra faire un choix.
Pas les deux ensemble ?
Pas les deux ensemble, malheureusement, parce que ni l'Agence spatiale européenne, ni la NASA, ni les Japonais n'auront le financement pour les deux. Donc il faudra faire un choix, ce sera difficile. Nous devrions faire le choix dans quelques mois, au mois d'octobre, novembre 2008. Ça va être un choix difficile. J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être impliqué, d'être le responsable scientifique pour l'Agence spatiale européenne pour les deux études. J'avoue que si on me demande de faire le choix aujourd'hui, j'ai vraiment un gros dilemme.
Il y a des critères objectifs pour ce choix ?
Oui, alors les critères objectifs, la science ne peut pas être un critère objectif dans la mesure où les deux missions sont excellentes du point de vue scientifique. Je crois que, bon, bien sûr, Europe est différente de Titan, mais les deux missions sont vraiment intéressantes. Alors, les critères objectifs qui pourront peut-être permettre de prendre une décision, c'est les technologies, le degré de préparation des technologies qu'il faut mettre en œuvre pour ces deux missions. Alors, Titan, c'est une mission où on va descendre en parachute. Europe, le gros problème, bon, il n'y a pas d'atmosphère, donc on ne peut pas se poser. Le gros problème, c'est de se mettre en orbite autour d'Europe parce que les ceintures de radiation de Jupiter sont vraiment très, très intenses. Elles sont 10 à 50, 100 fois plus intenses que les ceintures de radiation de la Terre. Donc, le problème des radiations est sans doute le problème technologique le plus délicat à résoudre pour Jupiter. Pour Titan, il y a un autre défi qu'on est en train de se lancer, qui est un problème technologique, c'est avec Huygens, on est descendu, on a atterri, on a survécu quelques heures. On a envie d'y rester dans l'atmosphère de Titan pendant des semaines, des mois, même des années.
Dans l'atmosphère.
Donc, dans l'atmosphère. Donc on est en train de concevoir une montgolfière, un ballon à air chaud. Un ballon à air chaud qui serait largué comme la sonde Huygens. La montgolfière se gonflerait pendant la descente. Elle flotterait à quelques kilomètres, 10, 20 kilomètres d'altitude. Et ensuite, elle serait portée par les vents. Et elle ferait le tour de Titan en quelques mois, peut-être 6 mois.
Avec un observatoire en dessous.
Avec un observatoire, une nacelle. Et dans cette nacelle, on aurait tout un ensemble d'instruments qui nous permettraient de prendre des images, de mesurer les vents, d'observer la surface, bien sûr, de faire aussi de l'analyse, de petits prélèvements de la matière organique qui serait prélevée de l'atmosphère et qui serait analysée in situ dans un petit laboratoire très sophistiqué qu'on aurait dans la nacelle. Et on continuerait ainsi.
On sait faire ça, nous, les Européens ?
Je pense qu'on sait faire ceci, oui, absolument. Le CNES, l'Agence spatiale française, est vraiment l'un des leaders mondiaux au niveau des ballons. Le CNES a un programme ballon qui est vraiment la référence, une des références, si ce n'est la référence. Et la montgolfière est peu différente d'un ballon, en quelque sorte. Donc, là, vraiment, les compétences existent, bien sûr, aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France. Et je crois que c'est un défi, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Développer une montgolfière pour voler dans l'atmosphère de Titan, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques années. Mais je crois que l'Europe est capable de relever le défi, un nouveau défi. L'Europe a bien relevé le défi du développement de Huygens il y a 25 ans. Et je suis convaincu que l'Europe peut relever le défi de développer une montgolfière pour voler au-dessus de Titan pendant des années et des années. C'est vraiment une mission assez excitante, je dois l'avouer.
Alors, une montgolfière dans l'atmosphère de Titan, et qu'est-ce qu'on ferait sur Europe ?
Alors, sur Europe, on essaierait de sonder l'océan, parce qu'il y a aussi une couche de glace d'eau, et puis en océan, une couche d'eau liquide, qui est sans doute beaucoup moins épaisse que la couche de glace de Titan. Donc, elle fait 10-20 km. Donc, on sonderait cette couche, on explorerait l'océan en faisant des mesures de gravité, des sondages radio, sondages radar. On est capable de concevoir un radar qui permettrait de traverser la couche de glace et de mesurer, de détecter l'interface entre la couche de glace et la couche supérieure de l'océan, peut-être même de pénétrer l'océan. Donc, disons que la caractérisation d'Europe ou d'Europa comme un système habitable, l'habitabilité d'Europa serait l'un des grands objectifs de la mission autour d'Europe.
Pénétrer la couche de glace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lancer un engin à la surface ?
Non, je dis pénétrer avec un radar. C'est-à-dire qu'on envoie des ondes radar suffisamment basse fréquence pour qu'elles puissent pénétrer, passer à travers la glace et se réfléchir à l'interface entre la couche glacée et la couche liquide. Alors, on est en train de faire ça actuellement. Les Européens, en collaboration avec les Américains d'ailleurs, ont conçu un tel radar pour Mars, qui est en orbite autour de Mars, Mars 6 Express, qui marche à merveille. Et les enseignements qu'on est en train de tirer de ce radar permettront de concevoir de façon très certaine qu'un tel radar, légèrement modifié parce que la surface est légèrement différente, mais un tel radar peut être conçu et est envisageable pour une mission autour d'Europe.
Et ça veut dire que dans une troisième phase, on peut imaginer débarquer à la surface d'Europe et puis descendre dans l'océan d'Europe ?
Alors, en effet, certains qui sont sans doute un peu pressés, voudraient que l'on envisage d'envoyer un atterrisseur sur la surface d'Europe. C'est trop tôt. On n'est absolument pas capable d'envoyer un atterrisseur parce qu'on ne sait pas du tout quelle est la structure de la surface d'Europe. C'était la même chose sur Titan. On a envoyé Huygens, il était conçu pour descendre. On a survécu, mais on a eu un peu de chance, c'est vrai. Mais là, avec Europe, on ne connaît pas la surface. C'est impossible, ça me semble impossible, de concevoir un atterrisseur. Donc, il faut que la mission qu'on est en train d'envisager actuellement nous permette de caractériser certains sites d'atterrissage avec une bonne définition pour pouvoir bien définir les conditions que l'atterrisseur, qui sera développé par la prochaine mission, rencontrera lors de son atterrissage. Et puis, la phase d'après, en effet, après l'atterrisseur, dans la quatrième phase, si on veut, ce serait d'envoyer un engin qui pénétrerait, qui traverserait la couche de glace et qui irait flotter dans l'océan.
25 ans plus 25 ans.
25 plus 25, 50 ans.
Hein, 50 ans. Pourquoi c'est si long ? Pourquoi est-ce qu'il faut 25 ans entre le moment où on se met autour d'une table en disant « Tiens, si on allait là ?» J'imagine bien que trouver les moyens, c'est complexe, mais pourquoi 25 ans ?
Alors, permettez-moi d'abord de répondre par une boutade. On est en train d'essayer de comprendre, l'un des objectifs, c'est quand même de comprendre l'origine de la vie. La vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années. Donc, s'il faut 25 ou 50 ans pour remonter le temps comme ceci, c'est très peu, finalement. Bon, mais ceci maintenant, à l'échelle d'une carrière, d'une échelle d'une vie ou d'une carrière d'un chercheur, c'est vrai que 25 ans, 50 ans, ça paraît long, mais bon, ce sont des missions qui sont complexes, mais ceci aussi, ce sont aussi des missions qui demandent longtemps pour arriver sur place. On ne peut pas lancer en direct, en trajectoire directe. Et nous sommes en train actuellement, pour la mission vers Jupiter Europe, de regarder des temps de transfert entre le lancement et l'arrivée de 6, 7, 8 ans. Sur Titan, on parle de 9 à 11 ans. On n'a pas de fusée suffisamment puissante pour envoyer les gros engins qu'on est en train de concevoir. Donc, il faut prendre son temps. Alors, on fait quelques tours du système du Soleil, on passe par des planètes pour utiliser ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Mais bon, ce sont quelques années supplémentaires, mais en fait, c'est très peu. On est en train de préparer les missions pour les prochaine décennie. Nous avons actuellement des belles missions qui nous envoient des données. Donc, il faut regarder ça sur une certaine continuité. Et l'échelle de temps n'est pour moi qu'un facteur relativement secondaire. On est en train vraiment de préparer des missions extraordinaires qui vont nous permettre de faire un pas important dans notre quête de la grande question: est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? Est-ce que les autres planètes sont habitables? On pense que Europa est habitable, peut-être Titan. Alors, quand je dis habitable, bien sûr, ce n'est pas avec des créatures humaines. Non, il y aurait certaines formes de vie primitives qui auraient pu se développer sur Europa, peut-être sur Titan, peut-être sur Encelade. Donc, ce sont les grandes questions qu'on est en train d'essayer de poursuivre. Et franchement, 5, 10, 15, 20 ans, je crois que c'est vraiment très, très, très secondaire.
Il y a une certaine frustration quand la mission arrive avec une technologie qui a 20 ans d'âge, parce qu'on sait à quelle vitesse ça évolue aujourd'hui. Quand Huygens s'est posé à la surface de Titan, finalement, ça avait été conçu dans les années 80.
Frustration, non, non, parce que je crois qu'on a conçu notre engin. Si je reprends l'exemple de Huygens, on a conçu l'engin pour qu'il soit performant le jour où il arrivera. Donc, bien sûr, c'est vrai que si on concevait Huygens aujourd'hui, on le concevrait légèrement différemment. Mais lorsqu'on a conçu Huygens, on lui avait donné une certaine tâche et on n'a pas de frustration parce qu'on sait qu'il va accomplir la tâche pour laquelle il a été conçu. Alors, la frustration, c'est peut-être un peu actuellement, quand on est en train de concevoir une nouvelle mission, on aimerait bien utiliser des technologies qui ne sont pas tout à fait prêtes, donc qui vont peut-être être prêtes dans quelques années. Et c'est là que peut-être une certaine sorte de frustration est évidente, mais non, une fois que l'engin est conçu, on se concentre sur le boulot. La tâche pour laquelle il a été conçu est vraiment, non, il n'y a pas de frustration. Et en plus, quand on a les découvertes que l'on fait, comment peut-on être frustré?
Ah, vous avez dit européen, américain, japonais, oui. Et ça fait un paquet de monde. Hein. Je présume que la demande de la communauté scientifique est très importante. Il ne doit pas y avoir suffisamment d'instruments ni de place pour embarquer tout le monde. Donc la sélection, elle est sévère sur le choix de la mission et des instruments qu'embarque une mission.
Bien, en fait, nous venons d'avoir un atelier de travail sur la prochaine mission vers Titan. Cet atelier de travail a eu lieu à Meudon pendant 3 jours. Et il n'y a pas de compétition. Bien au contraire, je crois que chaque communauté scientifique essaie d'apporter ses connaissances spécifiques pour concevoir le meilleur instrument et pour faire les meilleures mesures. Donc il y a vraiment une bonne collaboration qui s'établit de façon presque naturelle maintenant pour concevoir les meilleurs instruments, pour faire les meilleures observations. Donc c'est vraiment la communauté, je dirais, terrienne qui est en train de se lancer de nouveau à l'exploration des autres planètes et des autres lunes. Donc pas de compétition, une très bonne collaboration.
On travaille bien avec les Américains ?
Oui, bien sûr. Il y a bien sûr quelques difficultés dues au fait qu'on n'a pas la même culture, les méthodes de financement ne sont pas les mêmes, mais ma référence, c'est Cassini-Huygens. La collaboration avec les Américains sur Cassini-Huygens marche à merveille. Et je crois qu'on est en train de voir que cette collaboration, elle a établi une base solide. Et pour retourner vers Titan en particulier, il y a vraiment une communauté soudée qui a envie d'y aller ensemble. Et plus personne n'a envie d'y aller séparément. Les Américains n'ont pas envie de retourner vers Titan seul. Ils veulent vraiment y retourner avec les Européens.
Alors, quand on a un satellite aussi efficace, qui marche aussi bien que Cassini autour d'une planète, on ne le lâche pas. Donc, la mission a été, comme on dit, augmentée, hein, puisque tout fonctionne bien. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'années, plus de temps. La quantité d'images et d'informations qui arrivent est proprement stupéfiante. Il y a des générations de... Enfin, il y a pour des années et des années et des dizaines d'années de travail de dépouillement, c'est considérable quand même.
Je n'arrive même plus à compter le nombre d'images que Cassini nous a envoyées. Moi, je sais que Huygens nous a envoyé 300-400 images. Un petit nombre d'images. Ouais. Mais chaque image était importante. Cassini a renvoyé des dizaines et des dizaines de milliers d'images, et ça continue, ou des photos. Alors, ce que l'on fait, et ça c'est une partie, une tâche importante des scientifiques qui sont impliqués directement dans ces missions, c'est que l'on met ces images en archive, non seulement les images, toutes les données, parce qu'il y a certaines données qui ne sont pas des images et qui sont d'ailleurs aussi très intéressantes. Et on met donc ces données en archive avec suffisamment d'explications pour que des scientifiques, des nouveaux scientifiques ou des scientifiques qui n'étaient pas impliqués dans cette mission, qui ne sont pas impliqués dans cette mission, puissent analyser ces données et publier aussi. Donc il y a vraiment un travail important de mise en archive qui permettra de préserver toutes ces informations pendant des années et des années. Il faut savoir que... Il y a encore quelques années, maintenant beaucoup moins parce que les scientifiques sont passés à Cassini, mais il y a quelques années encore, de nombreux scientifiques travaillaient sur les données de Voyager qui ont été obtenues en 1980. Donc, travailler pendant plusieurs décennies sur ce genre de données, c'est tout à fait plausible. Et c'est...
Combien ça coûte d'explorer un monde comme Titan ? D'abord.
Un chiffre brut, le coût total de Cassini. Sur 20 ans, sur 25 ans, c'est 3,2 milliards de dollars. Alors, ça, c'est le chiffre brut.
Un jour de guerre en Irak.
À peine, je crois. À peine. Alors, mais c'est aussi une autre comparaison. C'est aussi, j'aime bien faire cette comparaison, c'est une place de cinéma, c'est 7, 8 euros, 10 euros, par citoyen européen sur 20 ans. C'est le coût de Cassini.
D'accord. L'ensemble.
L'ensemble. Donc, l'ensemble. Un citoyen européen, chaque citoyen européen, 300 millions d'habitants, met de côté le coût d'une place de cinéma sur 20 ans et on peut se payer une nouvelle mission. Alors, il y a différentes façons de comparer le coût de ces missions. C'est vrai que ce sont des coûts importants, mais quand même, ce sont des aventures extraordinaires et ce sont des aventures qui nous permettent de faire avancer énormément la connaissance de l'univers, la connaissance du système solaire, la connaissance de la vie, la connaissance de la Terre. Donc je crois que ce sont des investissements qui sont plus que justifiés.
Merci Jean-Pierre Le Breton, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain épisode.
Je vous en prie, au revoir.